Amen. Oh, attends un peu, mon Josiah.
Tiens.
Lui. Amen. On s'en va dans la parole de Dieu. Dans 2 Pierre au chapitre 1. On a lu dans 3 Jean, mais comme je l'ai expliqué, notre texte de départ, c'est vraiment 2 Pierre au chapitre 1. On va diriger pour que, quand même de façon assez consécutive, ça paraît pas parce qu'il y a eu un mois entre les deux avec nos vacances, mais maman, c'est pas le dernier message qu'on était dans 2 Pierre. Hein. C'est tellement merveilleux. Il y a des passages de même. Là. C'est quoi tu me disais, toi, Dave? Il y a un passage là que... Dans le voyage, on a pas mal parlé, là, mais un passage tellement précieux. Là. Où sais-tu? En tout cas. C'est merveilleux la parole de Dieu. Savez-vous quoi? On peut aller partout en long et en large, on trouve des trésors partout, mais des fois on se campe à quelque part. Là, puis là, on fait du camping dans un livre ou dans même des fois un chapitre. Là, et les vérités, là, c'est tellement profond, c'est riche, ça nourrit nos cœurs, ça réjouit notre âme. La parole vivante de l'Éternel. C'est merveilleux. Hey, le titre du message, peut-être qu'avec votre arrière-plan ou ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est peut-être un peu pour vous faire peur. Dieu, source de prospérité et d'abondance. Hey, on ne devrait pas avoir peur d'expression parce qu'il y en a qui les galvaudent, parce qu'il y en a qui les. Il y en abuse, parce qu'il y a des diatrèfles qui voudraient s'en servir. On va lire les versets 3 à 8 de 2 Pierre. Et j'ai quelque chose vraiment à vous partager ce matin, en toute simplicité. Sur ce thème, on termine le thème du mois d'avril, sur Dieu source d'abondance. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, loin de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété, à la piété, l'amour, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oui, on désire te connaître de plus en plus. Et on parle d'une connaissance vivante, relationnelle, une connaissance qui est comme ça quand on apprend à connaître quelqu'un qu'on aime, comme dans un couple, comme dans une famille, comme dans une amitié. Et Seigneur, tu es le berger de notre âme, tu es notre merveilleux sauveur, le potier qui nous façonne dans tes mains. Et Seigneur, on désire aujourd'hui que tu te révèles à nos cœurs. Avec ces vérités précieuses qu'on va considérer ensemble, merci que tu es le Dieu de toute abondance, le Dieu qui nous donne tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est sur toi qu'on porte les regards ce matin. On s'attend à toi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et ce matin, Seigneur, on est venu parce qu'on te cherche toi. Et merci pour ce peuple disposé ce matin. Oui, amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, tout ce qui peut être de distraction. Fais-les taire, que ce soit dans notre cœur, que ce soit ici ce matin. Seigneur, on veut faire silence devant toi, silence dans nos cœurs pour entendre ta douce voix. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Dieu, source de prospérité et d'abondance. Évidemment, quand on pense à ça, on pense à l'évangile de la prospérité. Ok? Mais comme c'est le cas avec d'autres choses aussi dans la vie chrétienne, des fois, on peut avoir une théologie réactionnaire où est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et que quand on entend parler d'abondance, de prospérité, nos oreilles se ferment. Alors que qu'est-ce qu'on a vu dans 2 Jean? J'espère, parce que je vous relis là, le verset dans, pas 2 Jean, pardon, dans 3 Jean. Je vous relis le verset ici, Jean parle à Gaïus, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et ça, ça rapporte matériellement parce qu'il dit « Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Selon le contexte, je crois que Gaius était quelqu'un que Dieu avait béni matériellement, qui était un homme qui avait de l'argent, puis qui avait une maison assez grande pour avoir l'église dans sa maison. Puis Dieu bénissait son peuple à travers ça. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ça, je veux dire, ça faisait partie de ce que Dieu faisait. Et évidemment, c'était pas le centre d'attention, c'était pas ça qui était le but de leur vie. C'était un moyen par lequel Dieu bénissait son peuple à travers le frère Gaius qui, comme ça, ouvrait sa maison pour que les chrétiens viennent adorer le Seigneur. Et donc, je dirais que, juste pour clarifier les choses en partant, là, l'hérésie de l'évangile de prospérité, parce que c'est une hérésie, c'est vraiment, ça se résume simplement avec ce verset dans Jacques, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. » L'évangile de la prospérité, c'est charnel. C'est du ici-bas, c'est du bonbon, c'est des diotrèfles qui veulent se servir, c'est de la simonerie. C'est des gens qui veulent se servir des choses de Dieu pour leur gain personnel. Et ça, évidemment, on rejette ça d'emblée. Des gens qui veulent se servir de Dieu, qui dans leur amour charnel de l'argent, veulent en tirer profit. La Bible nous parle de ça. Ça dit à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi biblique et authentique, la simplicité qui est en Christ, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la vraie abondance, la vraie prospérité, la justice, la piété, la foi, la patience et la douceur. Nos frères et sœurs iraniens en ce moment qui sont dans des endroits difficiles en Corée du Nord, en des endroits... Ils n'ont peut-être pas grand-chose en tant que chrétiens, peut-être qu'ils ont été mis au banc de la société, peut-être qu'ils n'ont rien matériellement, mais ils prospèrent. On voit une œuvre, j'en ai eu le privilège de voir à Vancouver comment Dieu touche la communauté iranienne, des gens qui arrivent. C'est drôle, dans les grandes villes demain, c'est le monde qui vient à nos portes, puis ces gens-là qui ont vécu toute leur vie dans une religion morte et souvent hostile, se rendent compte que c'est vide, puis ça ne marche pas, puis beaucoup viennent à Christ. C'est merveilleux. Et cette joie de voir Amir, une âme précieuse qui est venue à Jésus-Christ, quelle joie! Quelle joie de voir des gens qui passent des ténèbres à la lumière. Et c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie prospérité, c'est ça l'abondance, quelqu'un qui trouve Christ comme son trésor. Donc, non seulement on rejette, mais surtout on embrasse. On embrasse ce qui est au verset, on recherche hein, ce que ça disait dans le verset 11 de 1 Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Ces choses sont abondantes, surabondantes en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, notre source de prospérité et d'abondance. C'est important, à la lumière de ce qu'on considère aujourd'hui, puis vous savez, c'est la dernière fois qu'on considère notre thème du mois d'avril, l'abondance. Mais je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, dans le fond, les deux derniers messages que j'ai prêchés, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de la notion de plaisir. Que Dieu prend plaisir en nous et qu'on prend plaisir en notre Dieu. Savez-vous que le but ultime de Dieu, c'est qu'on le glorifie et qu'on prenne plaisir en lui. Le plaisir, c'est pas mauvais, ça vient de Dieu. En fait, c'est cette force qui nous propulse vers Dieu. L'hédonisme et le plaisir charnel qui est tourné vers soi, c'est destructeur. Mais Dieu nous a créé pour son plaisir, pour qu'on trouve tout notre plaisir en lui. Il y a d'abondante joie devant la face de l'Éternel. Le vrai plaisir, c'est en lui. Et on a considéré ça. Et Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et regardez aussi ce que ça dit dans notre texte, le dernier verset qu'on a lu, 2 Pierre chapitre 1, verset 8. « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va, plus on connaît notre Dieu, plus on est dans la joie, plus on prend plaisir à notre Dieu, à le connaître, à le découvrir. Donc, on va considérer ensemble cette vérité merveilleuse de Dieu, source de prospérité et d'abondance. Et en passant, l'évangile de la prospérité en fait par rapport aux choses puis des affaires. La prospérité et l'abondance, ça a tout rapport avec une personne. Une personne, notre Dieu qui se révèle à nous et qui se fait connaître de plus en plus à nous. Et ça, c'est notre joie. Dans Éphésiens, ça parle de ça. Paul dit à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et ce Dieu hein, qui peut faire même au-delà de tout ce qu'on demande ou qu'on pense. Et donc, c'est ça. On va considérer ensemble trois réalités de notre accès à ce Dieu qui est notre source de prospérité et d'abondance. D'abord, ici dans 2 Pierre, on a la provision. La provision de la prospérité et de l'abondance. En fait, dans les versets 3 à 4, hein, ça dit « Cette divine puissance nous a donné tout. » Donc la provision, elle est complète, elle est parfaite. Déjà, on a tout pleinement en lui. « Cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Puis ça, il y a un moyen. C'est par la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est pas avec des gimmicks, c'est pas avec une recette, c'est pas avec... Non, c'est en connaissant, relationnellement, découvrant notre Dieu. C'est ça qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour la vie, pour la piété. Tout est pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, il y a le fruit de ça, dans les versets 5 à 7, hein, avec la vertu, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, pardon, c'est le philéo, et l'amour agapé. Pour le résumer, dans le fond, on voit ici, si vous voulez, la multiplication de la vie. Dieu a planté la semence de vie en nous sauvant. Cette vie-là grandit, et se multiplie dans la vie de l'enfant de Dieu. Et remarquez que ça nous dit, il nous a donné. C'est pas comme il va nous donner, si on est des bons petits chrétiens, des bonnes petites chrétiennes. Non, c'est quelque chose qui est fait, qui est accompli. Il nous a déjà tout donné, pleinement. Et on va jouir des fruits de cette provision, du fait qu'il nous a tout donné, par la foi. Il faut qu'on y ajoute, qu'on joigne notre foi. Regardez au verset 5, ça dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre. » Joindre, ajouter. On va parler de ce mot-là dans un instant, mais il y a toute la notion de foi. Dieu nous a tout donné, puis on y a accès par la foi. La provision est complète, on y va, on a accès à cette provision par la foi. Il faut qu'on ajoute foi à ce que Dieu déclare. Donc, si on résume ici, spécialement la provision là, qui est dans les versets 3 et 4. Dieu nous a déjà tout donné, la puissance pour vivre selon la piété. Et toute cette puissance, en passant, si vous voulez, savez-vous c'est quoi la puissance là, que Dieu nous a donnée? C'est tellement grand que Paul y prie que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Ça dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 8, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc toute cette puissance, nous avons accès à cette puissance par la connaissance, une relation avec Jésus-Christ. Et cette provision, elle est selon les promesses de Dieu, hein, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu nous l'avait déjà tout annoncé, c'est accompli en Jésus-Christ. Et plus on s'approprie ces promesses, plus on s'approprie ces vérités, ces faits par rapport à ce que Dieu a fait de nous autres, plus on participe à la nature divine, plus on participe à cette nature et plus on est délivré de cette corruption qui est dans le monde. hein, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. C'est pas en se retroussant les manches, c'est en ayant accès à celui qui est notre vie, qui est notre victoire, qu'on en est libéré. La vie de Christ, plus elle prend de la place, plus ça l'expulse, la force de la corruption du monde qui veut essayer de nous atteindre. Et à la lumière de ça, avec toute cette provision-là, les versets 5 à 7, ben, c'est ce qu'on bâtit là-dessus. La provision, c'est les versets 3 et 4. Puis après ça, on bâtit, on ajoute, on bâtit le fondement, c'est Christ, notre relation avec lui. Et là, on bâtit avec la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et le mot ici, je l'ai dit que j'allais y revenir, le mot « joindre », c'est le mot duquel on a le mot « chorégraphie » en français. D'où l'idée d'agencer. Tu sais, une chorégraphie, c'est un agencement de mouvement, puis, OK? Mais c'est pas juste un agencement froid, c'est artistique. Il y a une beauté à ça. C'est un agencement pour donner un message, pour communiquer quelque chose. Ben, notre vie est une chorégraphie. Quand Dieu, comme ça, on a le fondement de la provision de tout ce qu'on a en Jésus-Christ, puis que là, on bâtit là-dessus, ça fait quelque chose de beau. Ça dépeint Christ dans sa sagesse, ça montre les vertus de Christ, sa connaissance, sa maîtrise de soi, sa patience, sa piété. On bâtit là-dessus, ça fait une œuvre qui communique qui Dieu est.
Amen.
C'est ça que ça bâtit. Et notre rôle dans cet agencement de mettre ensemble, c'est simplement d'ajouter foi. Dieu a tout donné. Maintenant, nous, on répond à ça en embarquant dans ce que Dieu a déjà commencé. Autrement dit, Dieu a fourni, a pourvu tout le matériel de construction. Mais nous, on est là, puis on assemble ça ensemble dans une structure, on chorégraphie, hein? On agence ensemble avec notre relation avec Christ, l'identité qu'il nous a donnée à lui, l'unité qu'on a avec lui, puis aussi l'unité qu'on a avec les uns et les autres, pour ça avec l'Église. Tu sais, ça nous parle d'une mosaïque, d'une œuvre vivante de Christ qui fait ensemble que c'est un corps qui, bien coordonné, tire son accroissement. Et il y a tout un assemblage. Et c'est grand, c'est grandiose, et c'est tout par rapport à Dieu. On a une part, et c'est merveilleux, mais c'est pas comme, hey, regardez comment je suis bon, puis pour nous mettre de l'avant. Non, ça met Dieu de l'avant. La provision, elle est en Christ, elle est pour Christ, et c'est Christ qu'elle manifeste. Et évidemment, ça demande notre collaboration, et quand on collabore comme ça par la foi, ça donne, verset 8, le fruit. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça ne va pas rien produire, ça va produire quelque chose. La vie de Christ. Ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la première vérité que je veux qu'on regarde par rapport à Dieu, notre source de prospérité et d'abondance, la provision. Mais aussi, on a un héritage qui est relié à ça. L'héritage de Dieu, notre source de prospérité et d'abondance. Vous n'êtes pas obligé d'y tourner, mais vous pouvez tourner, si vous voulez, dans Josué chapitre 1. Les trois premiers versets, ça nous dit ceci. Josué 1:1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous connaissez l'histoire de Josué, évidemment, c'est l'histoire de la conquête de la terre promise, qui est une... Il y a une image là-dedans, hein? Il faut remarquer, vraiment, il y a une symbolique. D'abord, c'est drôle parce que Moïse est mort. Moïse, il n'y a pas d'accomplissement de promesse avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est la loi. La loi nous conduit à Christ. Moïse a amené à la terre promise, mais n'a pas donné accès à la terre promise. La loi nous conduit à Christ, mais elle ne nous donne pas accès à la terre promise, à toutes les promesses. Okay? Il y a une symbolique qui est là. Josué, c'est Jésus-Christ. Non, Moïse, c'est la loi, la mort. Jésus-Christ, c'est la vie, l'accès aux promesses. Et il s'empare des promesses avec le peuple de Dieu. Et avant de pouvoir atteindre, d'avoir accès à ce qui est nouveau, la terre promise, il faut être dégagé de l'ancien. N'est-ce pas que ce que ça dit dans Romains au chapitre 1, verset 6? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servons, que nous servons, pardon, sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli. L'héritage qu'on a, c'est un héritage vivant. C'est l'héritage qui est en Jésus-Christ. C'est pas celui de l'ancienne alliance, de la loi qui était temporaire, qui était juste là pour nous conduire à Christ. On a un héritage maintenant en Jésus-Christ qui est vivant, qui est celui de la terre promise, de toutes les plus grandes et les plus précieuses promesses de la parole. Et ça, mes amis, c'est totalement fait. Dieu a tout réglé ça. C'est sa part, elle est faite. OK? Pour le mettre dans les mots de Romains 6, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. OK? Donc, l'idée de la mort, là, puis la loi, puis tout ça, c'est accompli, ça. On est, si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes mort avec Jésus-Christ. Le vieil homme, il a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ça c'est notre chair, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, comme dans les pérégrinations dans le désert, et tout ça. Et car celui qui est mort est libre du péché. Et donc, Dieu de son côté, tout est réglé. Je veux dire, encore là, il a tout pourvu. Il s'est occupé non seulement de nos péchés pluriels avec son sang qu'il a versé pour nos péchés à la croix, mais il s'est occupé même du péché en nous. La nature pécheresse en nous faisant mourir avec lui sur la croix. Comme on était tous morts en Adam, maintenant, on est mort avec Christ et ressuscité avec lui. C'est merveilleux, c'est le tout est accompli de la croix, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ceci étant dit, la même image ici, j'ai lu les trois premiers versets de Josué, l'héritage qui était là ne s'accédait pas sans combat. C'est un livre de combat, c'est pas compliqué, là. Le livre de Josué, c'est de la guerre pas mal tout le long. Il y a un message aussi là-dedans. Oui, Dieu a tout pourvu, puis Dieu a tout donné. Mais notre accès, c'est le combat de la foi. Oui, Dieu a tout donné, mais on l'accède par la foi. Le juste vivra par la foi. Et ça, oui, c'est un combat. Parce que c'est pas automatique. C'est pas la configuration par défaut. Il faut consciemment décider dans notre cœur de se confier en Dieu, de se reposer dans ses promesses, de croire à ce qu'il dit, qu'il a fait, de nous croire au fait qu'il déclare être tel avec nous autres, nous reconnaître comme tel. Oui, je suis mort au péché, et c'est un fait, je suis vivant pour Dieu maintenant, en Jésus-Christ. Ça, c'est par la foi, mes amis, il n'y a pas d'autre façon. Et c'est un combat, parce que des fois, nos émotions nous donnent un message différent. Le monde et le monde chrétien, des fois, nous donnent aussi un message différent. Comme dans le cas de Josué ici, on doit s'attendre que cette conquête ne se fera pas sans conflit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, cette connaissance qui nous a donné tout lorsqu'on est en Jésus-Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça le combat pour l'accès à l'héritage qui nous est déjà donné, là, mais qu'on s'empare, on avance dans la bataille, dans la terre promise, pour affirmer, réclamer ce que Dieu nous a déjà donné. Mais dont on prend possession pleinement par la foi. Comme ça dit dans Josué 1:11. Je l'ai-tu noté, lui? Non, je ne l'ai pas noté, mais Dieu a dit, allez, prenez possession. Je vous le donne, prenez-en possession. Maintenant, là, une question pour la réflexion ce matin. Pourquoi notre vie ressemble trop souvent à la conquête partielle de Josué? Vous avez-vous remarqué? Josué, là, c'est un bout de poche, là. Tu sais, des fois, tu dis dans la Bible, j'aurais aimé ça que ça soit différent. Ils n'ont pas tout conquis comme ils étaient supposés. Puis aujourd'hui, là, le 30 avril 2023, là, il y a encore des conséquences de ça dans la terre d'Israël en ce moment. Le plateau de Golan, la bande de Gaza, ça remonte à Josué. OK? L'obéissance partielle a des conséquences très, très longues et très réelles. Mais pourquoi nos vies, là on parle de l'application spirituelle de ça, pourquoi nos vies ressemblent à cette conquête partiel. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas tout donné, là. Dieu avait dit, OK, allez, prenez-le, tout est là, puis on vient de le voir dans 2 Pierre. Il nous a déjà tout donné pleinement. Tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Le problème, c'est nous qui agissons pas selon tout l'héritage qu'il nous a donné. C'est pour ça que Paul a dit, priez, là, que Dieu vous ouvre les yeux sur cet héritage. C'est tellement grand qu'on s'en rend même pas compte. C'est tellement beau qu'on a de la misère à y croire. Mais il faut y croire. On l'a. C'est un fait. Dieu nous a donné l'héritage. Nous avons la terre promise. Notre Jésus est le grand conquérant. Et lui, il ne faillit jamais. Mais on ne doit pas oublier cette loi spirituelle que Jésus lui-même a énoncée dans Jean chapitre 12. Et évidemment, lui, il faisait ici référence à sa mort, mais c'est une loi spirituelle qui s'applique aussi pour nous autres. En vérité, je vous l'ai dit, ça c'est Jean 12, 24. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'on croit? Parce que le problème, c'est pas qu'on n'est pas mort, c'est qu'on a de la misère à croire qu'on est mort. Qu'on croit, tu sais, parce qu'on dit, ben là, je me trouve pas mal vivant au péché, mais il me semble que le péché, j'aime encore ça, puis j'y donne trop accès dans ma vie. J'ai pas l'air de quelqu'un qui est trop mort au péché, puis vivant pour Dieu. D'accord? On a de la misère à y croire que nous sommes morts et que Jésus est notre vie. Pourquoi? Comment ça se voit? On essaye encore. Avec la chair, puis les techniques, puis nos mécanismes de défense, puis on essaye ici, puis on essaye ça. C'est dans l'incrédulité qu'on tombe là-dedans. Ça, c'est les pièges de la chair. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet-là, à ses chers Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Et là, évidemment, il y a un sens littéral, il était persécuté à cause de Jésus. Mais regardez aussi, il y a un sens spirituel. « Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, ainsi, la mort agit en nous, ça c'est l'application spirituelle, et la vie agit en vous. Dieu permettait des circonstances exténuantes, difficiles dans la vie de Paul. La mort travaillait. Pourquoi? Ça lui montrait. Il participait, il était en communion avec les souffrances de Christ. Pourquoi? Pour que la vie de Christ soit manifestée en abondance. Et c'est ça le principe. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas avant la mort. Et Dieu nous le rappelle avec la souffrance. Regardez l'un des 3 dernières années qu'on a eues. Regardez certaines des épreuves qu'on a eues. Qu'est-ce que ça a produit? Il y a eu beaucoup de morts. N'est-ce pas? La mort de la séparation, de la déception, de toutes sortes de choses. Mais quand on se confie à Dieu là-dedans, quand on se tourne vers Dieu là-dedans, qu'est-ce que ça produit? La vie. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez, dans l'épreuve, dans le combat de la foi, vous avez pris votre accès à la terre promise, à l'héritage que vous avez en Jésus-Christ.
Amen.
Et ça, ça vaut la peine. N'est-ce pas que ça vaut la peine?
Amen.
C'est dur. Puis tant qu'on n'aurait pas goût d'y retourner si on avait le choix, mais on regarde le fruit. Ah, c'est merveilleux. Ça m'amène au 3e point ce matin. Non seulement il y a la provision qui est là, il y a l'héritage qui est là, mais aussi... il y a la jouissance de Dieu. On peut jouir de cette vie de notre Dieu. Dieu, c'est pas juste des choses en théorie. On peut en jouir de cette vie qu'il nous donne. La jouissance de Dieu, notre source de prospérité et d'abondance. Dans Romains, on a l'exemple d'Abraham. On va tirer l'exemple de lui, mais avant, je vais juste vous donner un autre verset dans Romains. Quelqu'un connaît Romains 3, 23? C'est quoi?
Car tous sont péchés
et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché, c'est ça le problème dans nos vies. Et c'est une loi spirituelle. C'est un principe éternel. Le péché, ça nous prive tout le temps de la gloire de Dieu. Ça nous enlève ce que Dieu veut nous donner. Même dans la vie des enfants de Dieu, le péché, ça nous prive de la gloire de Dieu. De voir sa vie abondante se manifester dans nos vies. Mais regardez, écoutez l'exemple d'Abraham. Ça dit qu'Abraham, sans faiblir dans la foi, ne considéra point son corps déjà usé. Puisqu'après, il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. T'as amené ça, Jean-Pierre, hein, ça se peut-tu, dans ton message, un de tes messages, là? Je les ai tous écoutés. Je n'ai-tu oublié, hein? Non, je pense pas. Non, mais je les ai tous écoutés. C'était vraiment bon, les gars. Merci. puis gloire à Dieu. Amen. Et regardez ce que c'est dur verset 20. OK? Là, il veut dire ses circonstances, il est vieux, sa femme n'est plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Dieu avait fait une promesse, la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et qu'est-ce que ça dit? Donna gloire à Dieu. Le péché nous prive la gloire de Dieu, la foi, c'est ce qui donne gloire à Dieu. Dieu l'a dit, je le crois, ça veut dire, ça donne gloire à Dieu, parce que ça montre, Dieu quand il nous dit quelque chose, c'est pas des menteries, c'est pas des attrapes, c'est la vérité. Quand on croit comme ça, on donne gloire à Dieu, parce qu'on montre que Dieu est fidèle à ce qu'il dit être, à ce qu'il dit qu'il va faire, qu'il a déjà fait, ça donne gloire à Dieu. Donc oui, le péché nous prive de la gloire de Dieu, mais la foi donne gloire à Dieu. Donc, autrement dit, la foi redonne à Dieu ce qu'on y avait volé par le péché, par l'incrédulité. En croyant à ses promesses. En croyant à ses promesses et en croyant au fait de notre union avec Jésus-Christ. Voilà donc c'est quoi l'authentique évangile de la prospérité. C'est pas un évangile avec des gamiques puis des choses, des nananes ici-bas. C'est l'évangile du fait que nous avons tout pleinement, abondamment en lui. Et nous avons accès par la foi. Ça produit toutes sortes de fruits, puis c'est Dieu qui va décider. Pour certains, ils peuvent être dans une grande pauvreté, puis Dieu va produire toutes sortes de bons fruits. Pour d'autres, Dieu peut leur donner de la prospérité, puis comme Gaïus, ils vont bénir le peuple de Dieu avec ça. C'est Dieu qui décide de comment que lui veut faire porter le fruit, mais vraiment, la source, c'est Dieu. C'est pas l'homme, c'est pas les diotrèses qui vont être premiers, puis essayer de faire une gamique ou de la simonerie avec l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Et quand on marche par l'esprit, on porte le fruit de l'esprit en abondance. Puis là, je fais une petite distinction. Je l'ai déjà faite avant, mais je veux la refaire juste pour pas qu'on se trompe. Là, on parle de terre promise et tout ça, puis des promesses de Dieu. Il faut distinguer dans la parole entre les faits de la parole de Dieu puis les promesses de la parole de Dieu. Dieu, ça veut dire, il y a des choses là, que Dieu a déjà faites. Puis quand même, on n'a pas à le réclamer. Dieu, je veux mourir avec toi. Non, Dieu nous dit, là, t'es mort avec moi. C'est fait. On ne demande pas à Dieu de faire ce que Dieu a fait. Dieu, je veux être vivant pour toi. Il nous a rendu la vie jusqu'à on est ressuscité avec Christ. Okay? Donc ça, c'est des faits. Mais il y a aussi des promesses. Ça, c'est... Donc, les faits, c'est ce que Dieu a fait, passé. Et les promesses, c'est ce que Dieu va faire ou veut faire dans nos vies. On les réclame. Okay? Les faits, c'est des choses qu'on doit s'approprier, dire merci Seigneur. Tu l'as déjà fait. Merci, on vit selon la réalité de ce qu'il a déjà fait. Les promesses, c'est ce qu'on réclame dans la certitude de celui qui les a dit. Je donne des exemples, les faits, Christ est le cep, Christ est la vigne, on est les branches, puis le fruit, c'est à travers la sève qui lui produit. Un autre fait, je viens d'y référer, nous sommes morts avec Christ et nous sommes même maintenant vivants pour lui. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Okay? Ça, c'est des faits. Des promesses, si ma parole demeure en vous, vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Demeurez, il y a quelque chose, il y a une promesse qui est rattachée au fait de demeurer là-dedans. Ça va. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une promesse. On doit invoquer si on veut voir les grandes choses que Dieu va faire. Vous voyez, il y a une condition. Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos moyens. Mais avec la tentation, il va aussi nous donner le moyen d'en sortir. Dieu nous promet que si on prend le moyen d'en sortir, on va être vainqueur, mais il faut prendre le moyen. Et le moyen, en fait, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il faut se tourner vers lui. OK? C'est une promesse, mais c'est conditionnel. On pourrait y aller encore avec toutes sortes d'autres choses, mais voyez la distinction. Fait versus promesse. Or, autant les faits de la parole de Dieu que les promesses de la parole de Dieu ne dépendent pas des circonstances. Abraham avait une promesse. Puis ses circonstances n'étaient vraiment pas pour l'encourager dans ce sens-là. Hein, je suis rendu vieux, ma femme n'est plus en état d'avoir des enfants. Les circonstances étaient totalement contraires. Est-ce que la promesse de Dieu était, à cause de ça, menacée d'une façon ou de l'autre, que ça n'allait pas s'accomplir? Non. OK? Puis les faits aussi. Des fois, je me sens donc pas mort au péché. Je me sens plutôt vivant au péché, puis mort pour Dieu. Je me sens comme ça. Ouais. Est-ce que ça change les faits? Non, c'est pas circonstanciel. Ça dépend pas des circonstances, des difficultés, des menaces, des choses qui même peuvent nous paraître impossibles. Vous rappelez-vous, avant que je parte, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était au mois de mars, on a considéré ensemble un message, le regard de la foi. Hein, justement avec Abraham, mais aussi avec Ruth et avec Moïse dans l'Exode 14, où est-ce que la foi regarde au-delà de l'impossible, la foi regarde au-delà de la souffrance, la foi regarde au-delà de la menace. Ou pensons à Élie, dans 1 Roi 18, hein? Il y avait tout qu'un handicap, je ne suis pas un golfeur, là, mais il y a des handicaps au golf, c'est-à-dire des difficultés qui se rajoutent. Pensez à Élie, là. Il avait pas plu depuis tellement longtemps, puis là, il fallait qu'il fasse tomber le feu du ciel. Il a pris de l'eau qui était tellement précieuse, puis il a complètement submergé l'autel pour que avant que le sacrifice soit consumé. Je veux dire, c'était déjà vraiment difficile, il a rendu ça pratiquement impossible. Mais est-ce que pour Dieu c'était un problème?
Non.
Vraiment pas, parce qu'il me dit, quand le feu est tombé du ciel, tout a été consumé, puis fait que l'eau, elle s'est évaporée. Je veux dire, que ça soit mouillé, que ça soit sec, que ça soit difficile, que ça soit facile, que ça soit possible, que ça soit impossible, ça fait aucune différence pour Dieu. Parce que Dieu est Dieu, puis c'est le Dieu de l'impossible. Il répond aux prières, il accomplit ses promesses. Et les faits qu'il nous a donnés sur nous-mêmes, ce qu'il a fait, ils sont inchangeables. Ils sont inchangeables. C'est déjà accompli, c'est déjà donné en Jésus-Christ. J'ai presque fini, je vous amène une dernière illustration avant de conclure. Vous savez, dans les pérégrinations dans le désert, tu sais quand ils viraient en rond, là, le livre des Nombres, un beau livre hein, qui nous montre comment on l'a donné l'affaire. Là. Mais tu sais que Dieu nous donne Israël pour qu'on se voit dans le miroir de la parole. Là. À l'époque, Israël d'être donc des gros méchants, puis ça, on est la même nature qu'eux autres. Là, okay? Mais lors des pérégrinations dans le désert, Dieu avait absolument tout mis en place pour rendre les choses difficiles. Oui, il y avait une notion de jugement là-dedans, parce qu'il n'avait pas cru à la promesse, il n'avait pas rentré comme Dieu avait dit dans sa promesse au moment où est-ce que Dieu leur avait donné l'occasion. Mais il y avait plus que ça. Dieu voulait démontrer, Dieu voulait se glorifier en montrant que c'est lui qui peut faire tout ce qui a besoin d'être fait pour voir, hein, pour donner la provision de ce qu'il avait besoin, pour garder son héritage. Il avait fait des promesses, puis... Même malgré la désobéissance d'Israël, il allait quand même les promettre, les garder. L'héritage qui était promis par Abraham, puis tout ça, dont Israël était bénéficiaire, ça allait aussi se garder. Puis ultimement, il allait permettre à son peuple de jouir de ses promesses. Comme avec notre message, la provision, l'héritage, la jouissance de cet héritage. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est là-dessus que je termine, de ne pas se laisser enlever l'attention. Le focus, comme on dit en québécois, des promesses de Dieu, des faits, de ce que Dieu dit sur nous autres, de ne pas laisser notre attention sur ces choses être distraite à cause de nos circonstances. Souvent, ce qui me... Puis on va parler, dans le mois prochain, Dieu voulant, là, on va parler de l'imagination. Comment des fois, dans nos pensées, on part et on s'imagine toutes sortes d'affaires. Et que c'est un piège, ça. Les promesses sont là, mais on pense à ci, puis on pense à ça, puis à tel scénario, 1, 2, 3. Puis là, je pense qu'ils vont jusqu'à la fin de l'alphabet. A, B, C, D, E. Pour moi, ça limite, ça arrête à 26, là. Mais la foi authentique n'est pas influencée par les circonstances. C'est ce qu'on voit avec Abraham. Puis là, battez-vous pas avec... donnez-vous pas des coups de bible sur la tête. « Ouais, mais moi, j'ai de la misère, puis ma foi a vacillé. » Notre foi a vacillé tous, OK? Il n'y a pas personne qui est parvenu. Pis... Mais je vais juste dire qu'on soit ferme dans les promesses de Dieu. Puis quand les circonstances veulent nous faire changer d'idée, quand les circonstances veulent nous faire vaciller, qu'on y ajoute pas foi, qu'on ne laisse pas notre attention être distraite s'en aller vers ces circonstances. Puis en pensant à l'évangile de la prospérité, c'est extrêmement circonstanciel. C'est pour ça que ça n'a pas rapport. C'est pas la vraie foi. C'est un autre évangile, c'est une tromperie. C'est une voie qui paraît droite à l'homme. Mais son issue, c'est la mort. Qu'en est-il de ta foi ce matin? Qu'en est-il de ta réponse aux circonstances que Dieu t'envoie à toi pour éprouver ta foi? Parce que Dieu, là, c'est pas parce qu'il nous aime pas. Dieu. Là, j'ai une belle promesse à lui donner. Là. Mais je vais lui donner de la misère. Je vais lui donner des circonstances difficiles là, pour que ça soit plus dur. Puis je vais le regarder là, pour dire, Non, Dieu nous aime, puis nous envoie des circonstances adverses, comme il envoyait des circonstances adverses à Abraham, parce qu'il l'aimait. Pour éprouver, purifier, fortifier sa foi. C'est ce que ça nous dit dans le passage. Il a été fortifié dans sa foi, puis a donné gloire à Dieu. Dieu faisait ça pour sa gloire. Il y avait des desseins salutaires avec ça. OK? La question, c'est comment je réponds à ce que Dieu m'envoie à moi comme circonstance adverse. Est-ce que je suis ébranlé dans ma foi? Est-ce que je suis troublé? Je vous lis un verset à ce sujet-là. Dans Actes, au chapitre 15, on apprend qu'il y avait des hommes qui étaient partis de chez les apôtres, là, à Jérusalem, puis auxquels nous avions donné aucun ordre, qui vous ont troublé par leur discours et ébranlé vos âmes. Faites attention à de quoi vous vous nourrissez. Si ce qui vous nourrissez votre âme vous trouble et ébranle vos âmes, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole, ce qu'on entend vient de la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole suscite la foi. Où places-tu ta confiance ce matin? Où est-ce que tu loges ta confiance? Où est-ce que ta confiance demeure ce matin? La seule bonne réponse, c'est Jésus-Christ. Et les circonstances, ben, c'est une question de ben quoi, puis comment ça va se passer? Quoi, comment, qui, où? La foi, c'est une question de qui. C'est bien moins compliqué, hein? Je termine avec ça, je parlais avec une sœur. Là, elle était là, puis ouais, mais là, si j'oublie ça, puis là, parce que ça paraît un peu niaiseux, mais ah, je parlais avec une sœur qui il nous aime beaucoup, ce couple-là, puis tout ça, puis elle dit. « Ah, je devrais appeler ta femme, puis tout ça, puis là, tu sais, je vais peut-être oublier, puis ça. » Et as-tu parlé à Dieu? Comment Dieu, ça dit, « Hey, Dieu, j'aurais voulu appeler ma soeur. Rappelle-moi-le, quand toi, tu vas... » C'est-tu que c'est vrai ce que ça fait, ça? Ça enlève le fardeau. Dieu, pensez-vous que Dieu est capable de nous rappeler d'appeler un frère, une soeur? De... Dieu est bien capable. Puis, Dieu, je te mets ça entre les mains. Toi, tu vas... Tu sais pourquoi ça va être encore mieux? Parce que ça va être dans le timing de Dieu.
Amen.
Hein, c'est déjà arrivé. Hein, ça fait donc bien au bon moment. Ben, c'est le moment de Dieu.
Amen.
Quand on regardait, elle était là, ben oui. C'est donc bien, c'est tellement mieux la vie chrétienne, la vie de la foi, n'est-ce pas? On se complique la vie. Oh, ben non, tu sais, je veux pas oublier ci, puis faire ça. Ça, c'est nous qui s'en fait. On se met un fardeau nous-mêmes sur nos épaules. Déchargez-vous sur lui. Ça paraît niaiseux comme chose, juste une petite chose. Mais en même temps, si on fait ça dans les différents aspects de notre vie, on allège. On soulage. On se réjouit dans notre Dieu. Puis on se rend compte, « Hey, Dieu, tu me l'as rappelé! » On se rend compte, « Hein, Dieu, t'es vrai, t'es vivant, tu me l'as rappelé. » C'est tout bon, là. C'est juste bon. Ça nous fait tellement découvrir des choses merveilleuses sur notre Dieu merveilleux, extraordinaire. Ce Dieu-là nous appelle à lui ce matin. Hey, puis les gars, je vous ai entendu, hein? Vous avez pris des phrases que je dis, des « mes dieux », des « rendez-vous de Dieu avec la souffrance ». Ah, les petits voleurs! Ah non, gloire à Dieu, parce que... Non, Dieu travaille dans nos cœurs avec des choses. Ces choses-là, Dieu travaille dans... C'est pas comme des vérités lointaines, puis... Fait que... Dieu est tellement bon. Puis Dieu a répondu. Il a coordonné ce que vous avez amené comme message, puis... C'était super. Tout était à sa place, puis merci les gars, hein. Hey, Jean-Pierre en a donné sa voix puis tout ça, il est magané de la vie à cette heure. Pauvre Jean-Pierre. Amen, je vous aime tellement, vous êtes précieux. Puis Dieu vous aime encore plus. Amen. Seigneur, on te remercie, t'es extraordinaire. Et on se réjouit en toi, Seigneur, parce que t'es le seul vrai Dieu, tu es le Dieu qui nous rencontre là où on est, oui, puis aussi qui déverse sur nous avec abondance les diverses richesses de ta grâce. On te remercie pour ça. Merci que tout ça est accessible, pas avec une recette secrète, avec une gamique chrétienne, spirituelle, mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Ah Seigneur, on te remercie pour ça. On te loue Seigneur et on te bénit. Maintenant, Seigneur, le peuple qui est ici rassemblé, on veut juste répondre à ce que tu nous dis, en toute simplicité de foi. On veut ajouter foi à ce que tu nous as dit chacun ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.